Bien, sans plus attendre, c'est Jamal Touati qui va prendre ma place pour faire un retour sur les rencontres culturelles d'Oran qui sont tenues à Montpellier.
Salut à toutes et à tous, Jamal au micro, donc bienvenue donc à Divergence FM pour une émission consacrée sur le retour, donc un retour sur les rencontres culturelles d'Oran qui se sont déroulées le 16 et le 17 septembre au Domaine d'Eau. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, le Conseil Général établit des partenariats économiques avec les pays donc, du monde, en particulier les pays méditerranéens les pays d'Europe. Alors, déjà, le Conseil Général a établi donc dans le passé des partenariats qui continuent encore avec le Maroc, la région donc de Sousse, la région d'Agadir. Des partenariats économiques sont établis avec le gouvernorat de Médinine en Tunisie, des partenariats avec l'Espagne et en particulier une province autour de Barcelone, des partenariats en Chine, au Chili. Et puis des partenariats se sont concrétisés avec la Wilaya d'Oran en Algérie. Alors cette coopération est une relation politique et technique qui se crée donc entre les deux collectivités donc territoriales, celle d'Oran et celle donc de l'Hérault. Hein. Alors le Conseil général a établi donc un partenariat qui est basé principalement dans la coopération, surtout dans le domaine de l'assainissement. Hein. Donc le Wilaya d'Oran profitera et donc des compétences donc du département de l'Hérault dans l'assainissement. Alors nous étions Divergence FM le 16 donc et le 17. Nous avons assisté à ces rencontres et nous avons d'abord passé donc une déclaration qui est succincte du président donc de l'Assemblée populaire de la Wilaya donc d'Oran, Monsieur Abdelkader donc Hadjouj ou en arabe Abdelkader Hadjouj, qui nous parlera donc brièvement de ce partenariat entre le Conseil général de l'Hérault et la Wilaya d'Oran.
Nous sommes venus à Montpellier dans une délégation de l'Assemblée populaire du Wilaya, de la Wilaya d'Oran, dans le cadre de la convention bilatérale entre la Wilaya d'Oran et le département de l'Hérault. Donc, on est venu pour finaliser la déclaration d'intention qui a été signée le 22 octobre 2009 à Oran. Donc, demain, à 14h, moi-même et le président du Conseil général, nous allons paraffer ce protocole qui stipule la coopération et les échanges d'expérience entre les deux parties qui se résument dans 4 ou 5 thèmes pour nous qui sont prioritaires, à savoir dans le cadre de la gestion des déchets, la protection de l'environnement, le transport, la santé, l'enseignement supérieur et puis l'aménagement urbain. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on va essayer de promouvoir et concrétiser cet accord-là.
Alors, ces rencontres culturelles d'Oran ont été donc réalisées en partenariat avec le Centre culturel international de musique sans frontières, dont le directeur est Fethi Tabé. Hein. En quoi ça consiste? Alors, deux journées, le 16 et le 17. Hein. Alors, une exposition racontant l'histoire d'Oran, une histoire très très riche qui commence de la période néolithique en passant par la période donc phénicienne, romaine, la présence des Almoravides, des grandes dynasties du Maghreb, du Moyen-Âge, les les Almoravides, les Almohades, et puis la présence espagnole. Oran a été occupé donc pendant pratiquement deux siècles donc par les Espagnols, puis la présence ottomane, et puis la présence française. On sait qu'il a duré pratiquement 132 ans. Alors, pour vous rapprocher donc de la ville d'Oran, hein, alors nous vous présentons donc Fethi Tabe, qui est directeur du Centre culturel international de musique sans frontières, qui nous parlera de la ville d'Oran.
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre Conseil général de l'Hérault et Wilaya d'Oran, qui a eu cette idée de semaine culturelle oranaise. Il y a une exposition de tapis, de poterie, artisanat, des photos un peu relatant un peu l'histoire d'Oran, de la ville d'Oran et de la région d'Oran, de la Wilaya d'Oran. Il y a aussi un monsieur conférencier qui va parler d'Oran, de son histoire. Il y a aussi une dame qui fait des costumes, de très beaux costumes. Et la ville d'Oran, qu'est-ce qu'elle a de particulier? La ville d'Oran, c'est une grande ville, c'est la deuxième ville d'Algérie avec près de 2 millions d'habitants. Il y a un grand port d'Oran, il y a, qu'est-ce qu'il y a à Oran? Tiens, il y a la Santa Cruz, le château de Santa Cruz qui est connu, qui a été bâti par les Espagnols. Qu'est-ce qu'il y a aussi de particulier? La population, c'est une ville assez riche, assez dynamique, où il y a beaucoup de la culture, elle est très mise en avant par beaucoup de festivals. Il y a récemment un palais des congrès qui a été construit sur des milliers d'hectares avec de très belles salles, un auditorium de 3500 places.
Donc voilà, donc la boucle est bouclée. Donc après les villes d'Agadir, les villes donc de Médinine en Tunisie, la boucle est bouclée au Maghreb avec donc ce partenariat entre le Conseil général de l'Hérault et la Wilaya d'Oran. Alors Oran, donc ça vient de l'arabe Wahran. Wahran veut dire les deux lions. Hein. Cette ville donc a des surnoms, Wahran al-Bahia, donc la radieuse. C'est la deuxième ville donc en Algérie, comme l'a souligné donc Fethi Tabe. Et puis c'est une ville donc, la région d'Oran a beaucoup donc de points communs avec donc l'autre région de l'autre côté du Maroc, la région d'Oujda. À l'époque, il n'y avait pas les frontières, c'était vraiment donc on peut dire c'était une même, les habitants constituaient une unité donc ethnique et culturelle. Donc, alors, dans ces journées culturelles, nous avons rencontré une artiste potier donc en céramique qui s'appelle donc Boussalem Assiba, qui parle donc avec passion donc de ce qu'elle fait. Nous allons donc vous présenter l'interview. Moi, j'ai trouvé, pas en tant qu'animateur de Divergence FM, mais j'ai trouvé quand même que sa façon d'approcher l'art est associée donc à la poterie. Hein. Normalement, on a des artisans potiers. Elle, c'est une artiste potier. Nous allons vous laisser découvrir l'interview hein, que nous avons fait au nom de Divergence FM. Nous sommes donc au domaine d'eau, hein, dans le cadre des journées culturelles d'Oran, et avec nous une artiste algérienne, Madame Boussalem Assiba, artiste potier qui expose donc ses œuvres ici. Hein. D'abord, nous allons lui demander de se présenter hein, au Montpellierain, au Montpellierat.
Merci aussi d'avoir pensé à me faire cette interview pour pouvoir me présenter au public de Montpellier. C'est Madame Boussalem Assiba, artisan en poterie céramique. J'ai commencé mon activité, ça fait 17 ans que je suis dans le métier. Et j'ai hérité ça de ma grand-mère maternelle, qui était une potière aussi. Et aussi, c'est de la famille aussi, parce que même ma grand-mère paternelle, elle tissait des tapis. Et ça n'a pas empêché que je fasse des études supérieures parce que je suis ingénieure d'État en technologie textile. Et j'ai toujours aimé faire des dessins, façonner des formes, Je m'inspirais de tout ce qui est des formes qui étaient devant moi, qui représentaient le patrimoine algérien, le patrimoine berbère, qui est aussi maghrébin. Et je m'inspirais de tout ça. Je façonnais mes formes, je les décorais aussi en miniature berbère avec des symboles, différents symboles, très très fins, et qui symbolisaient toute une histoire, parce que ma grand-mère me racontait, souvent je lui disais, qu'est-ce que ça signifie celui-là, qu'est-ce que ça signifie, elle me racontait beaucoup de choses, et elle me disait que avant, ils utilisaient ces symboles-là comme un moyen de communication entre eux. Et un jour, elle m'avait, c'est ce qui m'a tapé toujours, c'est, elle m'a raconté une histoire d'une jeune fille qui s'est mariée très très jeune et qu'elle avait honte de passer le message à sa maman de lui dire « je suis enceinte ». Donc elle a dessiné un symbole dans un plat et elle a demandé à son mari, parce qu'avant elles étaient jeunes et elles respectaient beaucoup leur mari, elle a dit « tu donnes ce plat-là à ma mère comme cadeau ». Et une fois que son mari a donné ça à sa belle-mère, elle a compris que sa fille était enceinte. Donc cette histoire m'a vraiment frappée. Je me suis dit, un peuple qui communiquait avec les symboles, c'est vraiment unique.
On va donc rapprocher donc nos auditeurs montpelliéraines et montpelliérains. Donc de vos œuvres. Alors vous êtes artiste potier. D'abord, une femme artiste potier en Algérie et au Maghreb, c'est quelque chose de nouveau. Comment êtes-vous considérée dans ce milieu qui est, il faut le dire, très très masculin ?
Non, pour moi c'est pas très masculin parce que si on cherche vraiment dans la poterie, on trouvera que la poterie c'est les femmes. C'est elles qui façonnaient les objets pour pouvoir les utiliser à la cuisine. Mais actuellement, pour qu'une femme prouve son existence, pas seulement dans le domaine de l'artisanat, dans tous les métiers, elle doit être courageuse, elle doit être artiste avec elle-même, c'est-à-dire aimer ce qu'elle fait, et l'aimer vraiment pour pouvoir résister à toutes les contraintes de la vie quotidienne. Et en Algérie, ça n'a pas été facile au début, parce que comme j'ai terminé mes études, la famille, mon père, a insisté à ce que je travaille comme ingénieur d'État. Mais petit à petit, c'était difficile au début, mais petit à petit, je me suis attachée. J'ai commencé par faire dessiner des toiles et puis en même temps faire des objets. Et un jour, un beau jour, j'ai eu une invitation à participer à une exposition. Et c'était le début. J'ai commencé à faire beaucoup d'expositions à l'échelle nationale. C'était très dur. Je voyageais souvent. Mais après, ça m'a servi à participer à la Foire internationale d'Alger. Et j'ai eu le premier prix national. Quand j'ai eu le premier prix national, on m'a offert un voyage à Marseille pour participer à la Foire de Marseille. Et à mon retour, j'ai participé aussi à un deuxième concours. J'ai eu aussi un deuxième prix. Le ministre m'avait demandé « Est-ce que vous avez un problème, jeune fille ?» J'étais encore célibataire. Je lui ai dit « Oui, j'ai pu acheter mon tour de poterie et je suis en train de louer la cuisson chez les autres. » Masculin, bien sûr, c'est les hommes qui dominaient le marché. « Je ne peux pas acheter un four parce que c'est trop cher pour moi, monsieur le ministre. » Et j'étais étonnée que le ministre a décidé qu'on m'achète un four. Alhamdoulilah. On m'a acheté un four. Et mon père, là-bas, je l'ai mis, dans la réalité, voilà. J'ai mon four, j'ai mon tour. J'ai installé mon petit atelier, qui est devenu grand maintenant, alhamdoulilah. Une fois mariée, parce que je suis née à Tizi Ouzou, mariée, maintenant je suis installée à Oran. Et ça fait 10 ans que j'ai installé mon atelier à Oran. J'ai formé 8 filles à Tizi Ouzou quand j'étais célibataire, et elles travaillent presque toutes à leur propre compte. Et maintenant, j'ai formé 4 filles à Oran. Les potiers en Algérie, la majorité, c'est des hommes. Mais...
Donc, je ne me suis pas trompée quand je vous ai posé la question au début.
Mais, alhamdoulilah, j'ai mon propre cachet. Et quand vous dites Hassiba, la potière en Algérie, ah oui, On sait Hassiba. Elle a pris sa place parmi ces hommes-là.
En tout cas, Hassiba, on le voit très bien là en découvrant vos œuvres. Alors, on va rapprocher maintenant les auditrices et les auditeurs de vos œuvres. Alors déjà, d'abord, on commence par la poterie. Alors, vous avez donc des formes différentes. Ça représente quoi exactement?
Par exemple, là, vous voyez, il y a plusieurs formes et je n'ai pas pu tout ramener parce que oui, j'en ai beaucoup de modèles. Vous avez là la cruche berbère. Nos ancêtres l'utilisaient pour mettre de l'huile d'olive dedans. Ou la chahma, tout ce qui est gras.
De la graisse, oui.
Exactement. Et elles utilisaient ça dans la cuisine. Il y a aussi le couscoussier, c'est un modèle pour vaporiser les grains de couscous. Et il y a le tagine, pour cuire dedans les tagines, différents plats de tagine. Le pilon, différentes formes de boîtes à bijoux, des potiches, des vases. Et j'ai eu aussi l'idée de faire des tuiles, et je les ai trouées. Parce que pour moi, la tuile, elle représente la maison. Et la maison, c'est tout pour nous. La maison, c'est notre bonheur, c'est notre stabilité. La maison, c'est tout. C'est notre chez nous.
Après donc la poterie, nous allons passer donc au tableau, parce que ce sont des gravures sur cuivre. Alors, comment vous arrivez à faire tout ça?
Moi, les gravures sur cuivre, il y avait des artisans, et la majorité, c'est des hommes qui font le cuivre au poussé. Moi, j'ai commencé par les carreaux en terre cuite en tableau, au début. J'ai eu l'idée de faire les carreaux en terre cuite, que j'ai sablé avec du sable naturel, décoré avec de la poudre du marbre, et ensuite des carreaux en terre cuite en céramique, avec des symboles berbères. Et comme mon mari n'est pas artisan, j'étais un petit peu dépassée une fois que j'ai eu mes enfants et tout. Alors je lui ai dit, peut-être c'est le moment que tu deviens artisan, mon cher mari. Et il m'avait dit, c'est pas possible, il faut que je sois douée. Petit à petit, je lui ai fait apprendre le cuivre poussé, que c'était destiné uniquement pour les hommes là-bas en Algérie. Je lui ai dit que la technique, elle n'est pas difficile. C'est vrai que ça demande beaucoup de patience, mais ça demande aussi de la force. Et c'est lui actuellement qui m'aide à faire ces tableaux-là. Ça demande uniquement la feuille du cuivre et quelques outils et beaucoup de patience pour réaliser différents motifs dans n'importe quelle photo, même un portrait, on peut le faire. Et là, par exemple, j'ai ramené quelques modèles où il y a des bijoux berbères en relief. Et Oran, bien sûr, symbolisé, bien sûr, Oran pour pouvoir représenter notre ville quand même. Voilà.
Alors, vous avez aussi des habits. Alors, vous pouvez nous en parler?
Oui, ce que vous voyez ici comme habit, ça ne me concerne pas, mais c'est une amie, une artisane que je respecte beaucoup. Elle est de Tougourt, au sud algérien.
Ah oui.
Et là-bas, les sœurs françaises, elles étaient là-bas. Et c'est grâce à ces sœurs-là qu'elles ont appris à faire de la broderie sur laine. Jusqu'à maintenant, la majorité des femmes à Tougourt vivent de ce métier-là. Donc elles tissent la laine et puis elles façonnent leurs ponchos ou bien des écharpes, et elles font leur broderie avec des symboles et des motifs berbères. Et c'est un moyen de vivre et c'est très beau aussi.
Votre travail en tant qu'artiste potier, donc, ça regroupe quand même beaucoup de compétences. Vous êtes à la fois calligraphe, il y a un peu de calligraphie, hein. Il y a aussi une connaissance historique donc, de tous ces motifs berbères. Et j'ai vu même dans certains tableaux, certains motifs africains, donc mélange d'Afrique, berbère. Quels sont principalement les motifs qui vous inspirent?
Tous les motifs berbères, sans exception, parce que c'est très riche, c'est illimité, comme vous le dites. Quand j'étais à la foire de Marseille, il y avait beaucoup de clients qui admiraient ça et qui me disaient, ah, ça c'est grec. Non, je leur disais, non, c'est pas grec, c'est berbère. Mais en réalité, si on parle vraiment vraiment en humain, pas autant qu'Africain ou Européen. C'est des symboles de l'humanité, c'est-à-dire partout dans le monde, on trouvera la symbolisation. Si on cherche vraiment profondément dans ce domaine-là, on trouvera qu'on les trouve partout. Que ce soit seulement c'est spécifié d'une région à l'autre. Quand j'étais au Maroc, c'était vraiment la. C'est presque les mêmes motifs. En Tunisie aussi, c'est les mêmes motifs. C'est très riche. Moi, je ne peux pas préférer un symbole à l'autre. Mais je vous assure, à chaque fois que je dessine un symbole, je me retrouve. Je me retrouve carrément. Et c'est dans mon sang.
Vos projets, là, vous avez d'autres expositions dans l'avenir, que ce soit en Algérie, au Maghreb ou ailleurs?
Oui, en Algérie, il y a la Foire internationale de l'artisanat qui va se tenir au mois de novembre. Et c'est en même temps, il y a la date du 9 novembre en Algérie qui est la journée de l'artisan. Donc, une fois rentrée en Algérie, je vais me préparer pour ça. Et il y a aussi une foire en Pologne, une exposition en Pologne, une semaine d'artisanat algérienne. En France, rien n'est encore programmé pour la France. Ça fait déjà depuis 2003, c'est mon premier, mon premier retour ici en France depuis 2003. Et d'ailleurs, à l'occasion, je salue le public français. Sincèrement, depuis mes deux expositions en 2000 et 2003, j'ai eu beaucoup d'encouragement. Et cette fois-ci, malheureusement, il y a uniquement 2 jours d'expo et il y en a beaucoup qui n'ont pas été informés, c'est la khol. Mais, Inch'Allah, dans l'avenir, peut-être, un jour, il y aura quelque chose ici. Je serai ravie aussi de ramener mes produits et d'exposer mon savoir-faire au public français et de pouvoir leur expliquer tout ce patrimoine, la signification de ce patrimoine et de leur expliquer aussi comment ça se fait. Voilà. Je suis là, c'est ça l'artiste. Il doit donner ce qu'il sait parce que si on ne donne pas, donc on ne peut pas recevoir de l'autre côté.
Bah écoutez Hassiba, nous à Divergence FM, nous allons parler donc de vous et de votre travail. Et merci de votre gentillesse et bonne chance.
Merci à vous aussi, vous êtes plus gentil que moi. Et bonne chance pour tous les artisans au monde entier. Et voilà, je vous remercie.
Et voilà, c'était donc la belle et sympathique artiste, donc Hassiba Bousselem, artiste en céramique algérienne, donc de la ville de Rouen. Donc j'ai 2 informations à vous communiquer. D'abord, concernant les élections en Tunisie, hein, les résidents donc tunisiens en France peuvent voter donc le 20. Le 21 et le 22 octobre 2011. Alors, il faut se renseigner donc auprès du consulat sur les lieux de vote. Et puis, une autre annonce, donc, c'est le forum social des quartiers populaires qui se déroule le 22 et le 23 octobre à la Payade. Alors, avec des débats et puis surtout dans le contexte actuel, bien sûr, les indignés seront donc de la partie. Alors voilà, c'est fini donc pour moi donc et merci à donc Bruno pour la réalisation technique. Et quant à moi, je vous dis donc au revoir et à la prochaine fois.